Vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaînes musicales. Vous écoutez une émission de choc.ca.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission des Apatrides Anonymes sur Choc, édition du jeudi 4 juin 2020. Comme d'habitude, tout plein d'actualités sur les phénomènes migratoires, l'obsession sécuritaire, les frontières, le racisme. D'ailleurs, on est encore en pleine période des meurtres raciales aux États-Unis suite à l'assassinat de George Floyd, afro-américain de Minneapolis, étranglé pendant au moins 5 longues minutes par un policier blanc, Derek Chauvin, sous le regard presque bienveillant de ses collègues, d'après la vidéo horrible qui circule sur Internet. Superbe manif de soutien type Black Lives Matter à Montréal le dimanche 31 mai. Des milliers de personnes, à la fois des speeches proches du siège du SPVM, mais pas devant puisque la police bloquait la rue Saint-Urbain, et une marche qui a sillonné le centre-ville de bord en bord. Les gens étaient déterminés, très énergiques malgré les masques et la distance physique. Ça faisait du bien à voir en cette période un peu triste. Bref, c'est Simon, donc moi-même à l'animation. On aura tout au long de l'émission Marie-Ève et Mathieu. C'est déjà notre 5e émission en confinement, si je ne me trompe pas, donc tout est préenregistré en segments séparés, puisque les studios à l'UQAM demeurent fermés en raison de la situation que vous connaissez, et on n'a aucune idée de quand ça va réouvrir, donc peut-être juste à l'automne. Peut-être vous nous écoutez en direct sur choc.ca, sinon vous pouvez nous écouter en balado-diffusion sur choc.ca évidemment, ou dans notre site apatridesanonymes.info. Au sommaire aujourd'hui, des actualités européennes, des actualités latino-américaines, les suggestions d'une confinée et à travers tout ça, quelques brèves d'actualités locales et de la bonne musique. Avant d'aller rejoindre Marie-Ève, je vais justement vous faire un petit tour d'horizon d'actualités locales que je commence avec une petite capsule pour se mettre en appétit. En fait, c'est une grande première. On va appeler ça la surprise du jour. Il faudra qu'on vous trouve une petite musique niaiseuse pour accompagner ça. Alors, la surprise du jour, on est vraiment tombé en bas de nos chaises en apprenant que le climat de travail au ministère québécois de l'immigration, sous la férule de Simon Jolin Barrette, que le climat de travail était extrêmement toxique. On parle de méfiance, de vives tensions, de relations glaciales, de liens de confiance rompus entre les fonctionnaires et le ministre, de sous-ministres qui sont unanimement jugés super compétents, mais qu'on congédie. Bref, c'est le gros bordel, et oui, aux apatrides, on est franchement étonné d'apprendre que Simon Jolin Barrette est aussi détesté de ses employés. Lui qui démontre tout le temps, pourtant toujours, des super belles qualités humaines. Alors voilà pour la surprise du jour. On va surveiller ce ministre de près dans les semaines qui suivent, parce qu'il vient de déposer une deuxième tentative de réforme du PEC, le programme d'expérience québécoise. Après l'échec cuisant de la première tentative il y a quelques mois, donc le ministre revient à la charge en y ajoutant des contraintes supplémentaires, évidemment. On prendra un peu plus connaissance du dossier et on vous revient avec une analyse plus approfondie bientôt. Ce ministre, Jolin Barrette, s'est aussi vu confier le dossier de la possible régularisation des demandeurs d'asile qui travaillent actuellement, entre autres, dans les CHSLD. Moi, ça me rassure pas trop de savoir que c'est Jolin Barrette qui va piloter un dossier aussi sensible. Mais bon, on est un peu pogné avec lui pour encore 2 ans. François Legault s'était montré pas chaud du tout à l'idée de régulariser en disant que ça allait encourager les arrivées irrégulières par le chemin Roxham et aussi en disant qu'il avait des amis noirs. Je l'invente pas, c'est vrai, il a vraiment dit ça à un journaliste en point de presse. Mais bon, suite aux pressions populaires, aux campagnes, au tollé général, il semble qu'on va privilégier la voie de l'immigration économique et délivrer des certificats de sélection du Québec. Au moment d'enregistrer l'émission, c'est loin d'être réglé, donc à suivre. Dernière petite nouvelle locale pour l'instant, les travailleurs agricoles saisonniers qui viennent surtout du Mexique et d'Amérique centrale. En termes d'effectifs, on serait à 50% par rapport aux autres années. La situation sanitaire vient compliquer davantage un processus qui est déjà complexe, voire déficient à certains égards, mais les résultats concrets qu'on constate actuellement, c'est qu'on jette des légumes en masse ces temps-ci au Québec. On va retrouver Marie-Ève dans un tout petit instant. Elle va nous amener de l'autre côté de l'Atlantique pour un segment complet d'actualité européenne. Vous écoutez les Apatrides Anonymes sur choc.ca.
pour mes actualités européennes cette semaine, j'ai essayé de vous trouver des sujets qui, enfin, ne parlent pas que de la COVID-19. Alors, je commence donc avec un revirement de situation dans le dossier de Cédric Héroux, cet agriculteur de la vallée de la Roya à la frontière franco-italienne qui est devenu un symbole de l'aide aux personnes migrantes en Europe. Pour rappel, Cédric Héroux avait eu des démêlés avec la justice française pendant 3 ans pour avoir aidé quelques 200 migrants à traverser la frontière italienne jusqu'à son domicile en France, puis avoir organisé un camp d'accueil. En 2007, il avait été condamné d'abord à une amende, puis à 4 mois de prison avec sursis lors d'un appel. Cédric Héroux avait fini par saisir le Conseil constitutionnel, principalement là, sur 2 questions qui concernaient le fameux délit de solidarité. Et fin 2018, la Cour de cassation avait retenu le principe de fraternité pour annuler sa condamnation et ordonner un nouveau procès devant une autre cour d'appel. Finalement, Cédric Héroux a été reconnu non coupable là, très dernièrement, c'est-à-dire le 13 mai 2020. Eh bien, croyez-le ou non, Cédric Héroux vient d'être renvoyé en cassation, hein, ce qui veut dire que le dernier verdict là, de non-culpabilité pourrait être renversé. On n'en sait pas plus pour le moment, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est bien d'accord avec son avocate. Il s'agit bel et bien d'un acharnement ridicule et consternant. À la dernière émission, Mathieu, vous avez présenté un survol de la situation sur les sauvetages de personnes migrantes à Malte, cette petite île de la Méditerranée. Mathieu nous rappelait que depuis le début avril, Malte refuse tout débarquement de migrants sur son sol parce que les autorités considèrent que ces ports sont pas sécuritaires en raison de la pandémie de coronavirus, mais aussi les autorités arguent un manque de place suffisante pour accueillir des nouveaux arrivants dans les centres pour personnes migrantes du pays. Mais là, depuis la fin avril, l'île retient systématiquement sur des navires touristiques qui sont positionnés au large de ses côtes tous les migrants secourus en mer dans ses eaux territoriales. Alors là, on compterait plus de 425 personnes qui sont retenues à bord de 5 bateaux différents. Les informations sur les conditions de vie à bord de ces navires de croisière sont peu nombreuses parce que les autorités refusent aux journalistes et aux associations de rencontrer les prisonniers. Il y a seulement eu la Croix-Rouge qui a eu droit de monter à bord. Mais selon Alarm Phone, qui est une plateforme d'aide aux migrants en mer, des tentatives de suicide et des grèves de la faim ont été signalées. Mais bon, comme on est à l'ère des fake news, hein, en réaction à ces affirmations-là, il y a des vidéos et des photos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et qui montrent des personnes migrantes à bord des navires en train de chanter et de danser. Sauf que les ONG doutent, pertinemment, de la date d'enregistrement de ces vidéos-là qui auraient pu être tournées au moment de leur arrivée sur le bateau touristique. Alarm Phone a répliqué à ces vidéos par un tweet et je cite « Les personnes à bord sont gravement traumatisées par les abus dont elles ont été victimes dans les camps de torture libyens. N'utilisez pas leur soulagement momentané pour justifier des violations cruelles des droits de l'homme. » Selon les ONG, les naufragés n'ont pas pu avoir accès à des avocats, à des interprètes ou à des agents du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le HCR. Et Human Rights Watch a rappelé que la privation de liberté sans base légale est une détention illégale et arbitraire en violation du droit international et européen. Quant au HCR, lui, eh bien, ça fait depuis le 22 mai qu'il demande à Malte et aux États européens de s'entendre là, sur un accord de répartition de ces personnes migrantes-là pour qu'elles puissent enfin être mises en sécurité sur la terre ferme. Et pour finir, on se tourne vers l'Espagne où, même si le pays a enregistré une baisse de 31% des arrivées de personnes migrantes cette année, en raison, comme on peut s'en douter, de la pandémie actuelle, eh bien, le nombre d'Algériens débarqués dans la péninsule ibérique a, en revanche, nettement augmenté. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis le début de l'année 2020, c'est près de 1 700 Algériens qui sont arrivés au pays sur un total de 6 773 migrants. Alors qu'au cours de la même année, l'an dernier, on comptait à peine une centaine d'Algériens seulement. Même que les Algériens représentent aujourd'hui la première nationalité des arrivées irrégulières dans le pays. Selon le quotidien El País, c'est même du jamais vu depuis 2016. Mais là, les raisons qui pourraient expliquer cette soudaine augmentation-là restent assez nébuleuses, mais selon Ali Zoubedi, qui est un chercheur marocain spécialiste des migrations, les Algériens sont de moins en moins nombreux à espérer un changement démocratique, alors ils quittent à nouveau leur pays, un peu comme avant la Révolution. Les autorités espagnoles, comme on peut s'en douter, sont inquiètes, mais pas tant par ces nouvelles arrivées-là que par le changement de route migratoire qu'elles observent. En effet, il y a un rapport de la Commission européenne qui montre que les Algériens empruntent de moins en moins la voie marocaine pour rejoindre l'Espagne par la mer, comme c'était le cas depuis des années, mais partent désormais directement des plages algériennes situées dans le nord du pays. C'est ainsi que, depuis janvier 2020, 46% des arrivées par bateau via la mer d'Alboran sont parties d'Algérie, comparativement à 10% en 2019. Ce qui pourrait expliquer le fait que cette route migratoire soit maintenant privilégiée, c'est que les bateaux utilisés par les passeurs en Algérie sont mieux équipés que ceux empruntés par les personnes migrantes qui partent, par exemple, du Maroc ou de la Libye. Et ces bateaux embarquent aussi généralement un maximum de 8 passagers et sont, en plus de ça, munis d'un moteur qui peut facilement atteindre 74 km/h. Ce qui fait que ces bateaux-là ont besoin seulement de 3 à 4 heures pour parcourir les 200 km qui séparent Oran, qui est la ville côtière algérienne d'où partent les bateaux, la majorité des bateaux, et Almeria, qui est la ville du sud de l'Espagne où arrivent les migrants. Et à cette vitesse-là, c'est aussi plus difficile, on se l'imagine, de les intercepter. Et les bateaux sont capables de toucher terre avant même l'arrivée des agents frontaliers qui sont avertis par les radars. C'est difficile de dire si cette tendance-là va se maintenir, mais selon le même rapport de la Commission européenne, ça devrait être le cas parce que les réseaux de passeurs ont adapté leur mode de fonctionnement et organisent aussi des départs même simultanés pour dépasser la capacité des autorités algériennes. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour, qui met un terme à notre tour d'horizon de l'actualité européenne.
Merci beaucoup, Marie-Ève. On va poursuivre en musique avec une première pièce de la musique brésilienne. Donc, j'en profite pour vous donner des nouvelles de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, qui est actuellement visé par des enquêtes sur de l'entrave qu'il aurait fait sur d'autres enquêtes policières qui concernent certains de ses proches. Il y a une vidéo assez compromettante qui circule. On le voit en réunion, en colère, dicter à son cabinet comment il veut que la justice soit menée dans son pays, qui il veut congédier, qui il veut nommer, etc. En bonus, on y entend aussi le ministre de l'Environnement dire qu'il faut profiter de la période de pandémie pour assouplir, j'aime le terme, les normes environnementales en Amazonie. Ce qui est particulier, c'est que la vidéo a été rendue publique par un juge qui enquête actuellement sur Bolsonaro. Il faut rappeler que la gestion de la crise sanitaire de Bolsonaro, c'est assez semblable au chaos à Washington, avec Trump qui est en guerre ouverte avec les gouverneurs et les maires. C'est exactement le même principe au Brésil, ce sont les gouverneurs des différents États qui prennent en charge la réponse à la crise, avec un président hystérique qui appelle presque à la guerre civile. J'ai lu un article intriguant, mais très intéressant, dans l'Humanité, article qui s'intitule « L'armée met au pas Bolsonaro, un coup d'État très discret » avec point d'interrogation. Ça date quand même du 6 avril, mais vous pouvez trouver l'article facilement en lecture complète et gratuite. Et c'est étonnant, c'est intéressant. En gros, ça nous explique que l'armée maintiendrait Bolsonaro comme simple façade du pouvoir depuis plusieurs mois. Je cite l'article. « Cela n'équivaut pas à la déposition du président, mais à sa réduction à une figure de type monarque constitutionnel sans pouvoir effectif. » Fin de la citation. Ce pouvoir effectif, il serait exercé par un général de l'armée brésilienne qui s'appelle Walter Souza Braga Neto. On essaiera de faire sa connaissance et de vous en dire plus. On s'en va en musique avec la pièce « Bonne nouvelle » de Flavia Coelho, une chanteuse maintenant établie à Paris, mais d'origine brésilienne, qui a grandi et vécu à Rio. La pièce « Bonne nouvelle », c'est sur l'album qui s'appelle aussi « Bonne nouvelle », sorti plus tôt en 2020. Ça parle de confinement. C'est un mélange de français et de portugais. Les thèmes qu'elle aborde généralement, Flavia Coelho, sont entre autres le racisme, l'homophobie, et en général, c'est en lien avec l'actualité brésilienne. Au retour, on rejoint Mathieu, qui nous a préparé des segments d'actualité sur l'Amérique latine. Toujours sur choc.ca, émission des Apatrides anonymes du 4 juin 2020.
Le boss a parlé, paraît qu'il faut pas bouger. Le prix du plaisir n'arrête pas d'augmenter. Mais mon crush est enfin disponible à câliner. Et ça c'est la bonne nouvelle. La fête a coupé comme mais c'était imposé. Comme une galère on était bien posé. Mais on va rester enfermé, pas isolé. Et ça c'est la bonne nouvelle. J'ai vu cette année, y a du soleil en plein hiver. On va rester à la maison pour le dessert. Mais en petit comité, la cabine remplit mon verre. Et ça c'est la bonne nouvelle. 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 Balela depuis des années, mais desenrolo com ele na tchatcha, ele deixa entrar com meu look de marca vestida para atacar. On est trop abusé, atmosphère bousillée. C'est pas des mots pour faire beau, c'est pas des clichés. Mais dans ta tête qu'il est fait des serres, on peut le baiser. Et ça c'est la bonne nouvelle. La vie ne va pas s'arrêter, on peut continuer. Les bails, les problèmes, on va surmonter. Mais, mano de bango, ils sont ma coça, nous font danser. Et ça c'est la bonne nouvelle. 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 Bonne qui bonana, bonne qui bonana. Bonne qui bonana, bonne qui bonana. Bonne qui bonana, bonne qui bonana. Et ça c'est la bonne nouvelle. 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 Et ça c'est la bonne nouvelle.
Vous êtes toujours aux Apatrides anonymes. On vient d'entendre Flavia Coelho avec la pièce « Bonne nouvelle ». C'est Mathieu avec vous pour ma chronique de l'émission aujourd'hui. En deux temps, je vais vous parler en deuxième temps des communautés autochtones et autres dans certains pays d'Amérique latine en lien avec la pandémie et le renforcement de l'extractivisme. Mais en premier, je vais vous parler d'un pays dont on discute rarement. Dont on entend parler rarement, le Salvador, El Salvador. Donc, dans la série des autocrates ou dictateurs qui renforcent leur pouvoir en contexte de crise et de pandémie, lui est moins connu. Il s'appelle Nayib Bukele. On vous a parlé de Orban il y a quelques semaines. Vous avez entendu parler aussi à l'émission de Modi en Inde, Orban en Hongrie. Duterte aux Philippines fait la même chose. C'est des dictateurs qui en profitent pour écraser les oppositions, accroître leur pouvoir. Ben donc, au Salvador, ce qui m'a frappé, c'est des images chocs de prisonniers il y a à peu près 4 semaines. Ça a circulé dans les médias, des prisonniers à moitié nus, en caleçon, cordés, tous les uns contre les autres, des centaines dans des grandes salles de prison. Donc, cordés pendant 24 heures, certains avec des masques, d'autres non. Donc, une humiliation collective de prisonniers dans les prisons salvadoriennes. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe là. Et là, je suis revenu un petit peu en arrière. À la fin mars, le président, donc Bukele, a ordonné un confinement obligatoire à domicile de 30 jours pour l'ensemble de la population. Donc, très sévère, un des pires confinements dans le monde. Ceux qui ne respectent pas les mesures pourraient être arrêtés et transférés dans des centres de confinement, rien de moins. Pour vous donner une idée, ben, une personne par famille est autorisée à sortir pour approvisionner l'ensemble des membres en nourriture, donc d'approvisionner la famille. Voilà, une personne par famille. Donc, ça, c'était le confinement décrété à la fin mars. À la fin avril, on apprend que les gangs de rue, les gangs criminalisés du Salvador, profitent de l'épidémie de COVID-19 pour faire des homicides, pour faire exploser la violence. C'est la nouvelle qui sort. Et donc, à la fin mars, le président Bukele annonce une série de mesures, une qui est assez symbolique, qui est celle de mélanger les membres des différents gangs dans les prisons afin de limiter leur capacité à planifier leurs actions de l'extérieur. Ça avait été mis comme règle de séparer les gangs en 2002 pour réduire les affrontements à l'intérieur des prisons, donc les meurtres. Donc, c'est là que dans les mesures, entre autres, il y a aussi l'espèce d'humiliation collective des prisonniers. C'était suite à le 24 avril, il y avait eu 22 personnes de tuées dans les rues du pays. Donc, on se demande un peu ce qui se passe au Salvador. Et là, ben, on entend le vice-ministre de la Justice en charge des prisons qui déclare « Nous allons travailler à la mise en place d'un nouveau régime pénitentiaire dans tous les centres du pays. » Et ça fait partie des mesures. Évidemment, la Commission des droits de l'homme salvadorienne dénonce cette mesure qui est risquée. Elle déclare que c'est une bombe à retardement qui pourrait amener une explosion d'homicides ciblés ou même collectifs derrière les barreaux. Je vous en parle dans quelques instants, mais juste vous dire, c'est qui Nayib Bukele, le président qui est surnommé le dictateur sur les réseaux sociaux, il y a 38 ans, quand même, il faut le noter, élu en juin 2019 comme président de Salvador, ça fait à peu près un an. C'est un ancien membre du Front Farabundo Marti de Libération Nationale, qui est l'ex-guérilla marxiste, qui est devenu un parti social-démocrate. Donc, sous cette étiquette, il a été élu maire de la municipalité de Nuevo Coscaltan en 2012 et maire de la capitale, San Salvador, en 2015, toujours sous le FMLN. Mais en 2019, comme président, candidat à la présidentielle, il s'est présenté pour la coalition conservatrice Ghana. Et lui, son principal programme, c'était pour faire face à la violence héritée de la guerre civile qu'il y a eu dans les années 80-90 dans le pays, il fallait opter pour une option de la force militaire. Ce que beaucoup, évidemment, désapprouvaient, mais d'autres appuyaient. On a entendu parler de lui dans les médias internationaux en février dernier, 2020, parce que les députés ne voulaient pas voter, approuver un emprunt de 109 millions de dollars pour des mesures sécuritaires. Donc, il s'est rendu à l'Assemblée nationale pour appuyer ses partisans, donc les députés de son parti qui sont minoritaires. Il est arrivé avec des militaires équipés de fusils et de gilets pare-balles dans l'Assemblée législative. Et pour intimider, évidemment, les parlementaires, et il a appelé à l'insurrection populaire contre les politiciens corrompus. Évidemment, ça a été désapprouvé par beaucoup de monde. Une citation de Amnesty International, « Le déploiement policier militaire au sein de l'Assemblée législative nous rappelle les époques les plus sombres de l'histoire du Salvador. » Pour vous parler un peu de lui, on le compare aussi à Trump, comme d'autres, comme Bolsonaro, comme d'autres, dans sa façon de communiquer et d'imposer ses vues. Il utilise principalement Twitter. Vous allez être surpris, j'imagine, pour diriger son pays. Donc, des tweets qui sont publiés régulièrement. Il considère qu'il peut s'affranchir de certaines règles démocratiques pour gérer la crise actuelle. Ses tweets ont désormais valeur de décret, donc ils ne passent pas par des publications officielles ni par le Parlement. L'armée applique à la lettre les décisions Twitter du jeune président. Par exemple, je vous parlais des centres de confinement tantôt, bien, il y a 4000 personnes qui ont été arrêtées et placées dans des centres fermés de confinement depuis le début de la crise. L'armée et la police ont désormais le droit d'entrer dans n'importe quel domicile pour vérifier l'état de santé de ses habitants. Mais Nayib Bukele est populaire, évidemment, chez une partie de la population qui aime bien ce président sûr de lui et brutal pour changer les choses. Il faut dire que le Salvador est considéré comme l'un des pays les plus violents au monde, en dehors des zones de guerre. Il est en proie aux gangs depuis des années, depuis la fin de la guerre civile, qu'on appelle ces gangs-là des Maras. Deux d'entre eux tiennent une bonne partie du pays, le MS-13 et le Barrio 18. Mais bon, pour venir un peu à la situation des prisons, un détenu sur cinq en prison est membre d'un gang. Et Bukele considère que les forces de l'ordre doivent se consacrer au confinement et pas à éviter des meurtres en prison. Les ONG y voient une manière déguisée de les inciter à s'entretuer. Et le Parlement a bien tenté s'interposer, mais le président considère qu'il n'a plus besoin des députés et que sa popularité prouve qu'il est démocrate et populaire. Pour terminer, au niveau du confinement, plus récemment, le fin mai, le gouvernement du Salvador, donc le président, a prolongé jusqu'au 6 juin le confinement. Le décret permet seulement aux Salvadoriens, Salvadoriennes, d'aller faire des courses dans les supermarchés et d'aller à la banque. C'est les deux seules sorties possibles. Les transports en commun sont interdits, par exemple. Et pour vous dire un peu l'imbroglio et le conflit qu'il y a avec l'opposition et au niveau démocratique, il y a eu un jeu de ping-pong dans les dernières semaines pour savoir si à quel moment ça allait réouvrir, le confinement, la fin du confinement. Et finalement, il a fait un décret, la Cour constitutionnelle l'a annulé, il en a fait un autre, le Parlement a voté une loi. Et finalement, on est pour l'instant au 6 juin, donc en confinement complet donc au Salvador. Pour votre information, ben le bilan depuis le bilan de la pandémie début juin, c'est 2500 cas et 50 morts donc au Salvador. Donc en conclusion, je vais vous parler d'un autre dictateur qui se renforcit avec l'état d'urgence, avec la pandémie. Il en profite pour écraser les oppositions, contrôler son peuple. Donc on risque d'en avoir d'autres à vous parler dans les prochaines semaines. Donc c'était ma première partie sur l'Amérique latine, sur le Salvador. Bonjour Mathieu, avec vous. En deuxième temps, je vais vous parler de la COVID-19 et l'extractivisme dans certains pays sud-américains. Il se passe beaucoup de choses dont on entend peu parler encore une fois. C'est un peu ça notre rôle ici. Premièrement, l'Équateur. Je suis tombé sur une pétition qui a été mise en ligne à la fin avril qui parle des industries extractives qui sont une source potentielle de risques, de contagions et de maladies, une menace pour la santé des personnes et la nature. C'est pas une nouvelle, ça, vous allez me dire. En Équateur, la crise provoquée par la COVID est quand même importante et elle ne se limite pas aux terribles images de Guayaquil que les médias ont diffusées dans le monde entier. Vous vous rappelez des cadavres dans les rues là, au mois d'avril. Dans la jungle amazonienne, entre autres pour le peuple Chouar, ils ont commencé à identifier des cas suspects de coronavirus et des cas confirmés. Les populations afro-descendantes, paysannes et autochtones des hauts plateaux équatoriens et en général toutes celles situées aux frontières de l'extractivisme sont également en situation d'urgence à raison de la pandémie de coronavirus. En plus, il y a un assaut des entreprises qui ne respectent pas l'état d'exception ou de quarantaine avec la permission, la complicité et l'encouragement du gouvernement national. Les sociétés pétrolières, minières et forestières continuent de pénétrer sur différents territoires en profitant du statut d'activité stratégique, entre guillemets, en période d'isolement des populations. L'entrée des travailleurs de ces entreprises met à risque de contagion les zones et les populations les plus fragiles qui ne savent pas traiter cette nouvelle maladie. Donc ça, c'est un petit aperçu de ce qui se passe au niveau de l'Amazonie en Équateur. Au Brésil, il se passe beaucoup de choses au Brésil. Ça aussi, c'est une déclaration de l'Articulation des peuples autochtones du Brésil, la PIB, dont on a déjà parlé à l'émission. Ils se sont alertés suite à la mort d'un adolescent de 15 ans du peuple autochtone Yanomami, qui vivait dans un village exposé à des activités minières entreprises illégalement sur la rivière Uraricuera. Et ça a renforcé leurs revendications sur la nécessité de protéger les territoires parce que les peuples autochtones ne sont pas seulement exposés au virus, mais également à l'augmentation d'évasion et de crimes commis envers le territoire et envers les vies par les compagnies extractivistes. Il y a des bûcherons, des mineurs qui continuent d'être envoyés pour accaparer les terres en ne cessant ainsi de violer les droits et de détruire la nature de protégé par ces peuples autochtones. Donc, la mort du jeune Yanomami est le troisième autochtone décédé de la COVID. Ça, on était fin avril, début mai, vous voyez. Fait que ça a sûrement augmenté depuis le temps. Mais, petite bizarrerie, seul ce dernier cas, là, donc la mort du jeune, a été comptabilisé par le secrétariat spécial de la santé autochtone qui relève du ministère de la Santé au Brésil parce que ce secrétariat continue d'insister de ne pas fournir assistance aux personnes autochtones quand elles ne résident pas dans leur village. Ça fait penser un peu au système des réserves ici. Donc, cette mesure de ne pas assister, de ne pas comptabiliser non plus les morts ou les malades, ça perdure alors que le ministère public fédéral a recommandé de fournir une assistance aux Autochtones, quel que soit leur lieu de résidence. En plus du jeune de 15 ans, une femme de 87 ans du peuple Borari et un Autochtone de 55 ans du peuple Moura d'Amazonas sont décédés aussi. Donc, l'articulation des peuples indigènes du Brésil a présenté des propositions pour un plan d'urgence qui doit être mené par le gouvernement fédéral. Elle a également transmis au gouverneur de tous les États une demande d'adoption de 10 mesures urgentes. Puis, je les cite, « Compte tenu des difficultés logistiques, de la précarité du réseau de soins de santé primaire et de la vulnérabilité épidémiologique des Autochtones, il est urgent de construire des hôpitaux exclusifs pour les soins de ces populations et d'acquérir des tests rapides pour dépister la COVID. » Donc, Brésil urgence, évidemment, dans les villes, mais aussi dans les zones autochtones, comme vous savez. Et depuis ce temps-là, bien, le Brésil, ça a seulement fait qu'empirer au niveau de la propagation. Donc, au niveau des Autochtones, il y aura une mise à jour à faire sûrement bientôt. Dernier pays dont je vous parle, le Honduras. Une déclaration aussi qui nous dit « Le COVID-19 n'empêche pas les élites de s'approprier le territoire à leur guise. » Il faut savoir que récemment, le secrétariat des ressources naturelles et de l'environnement, qui s'appelle le Miambiente, a publié un communiqué demandant aux capitaux nationaux étrangers de présenter une demande de « entre guillemets permis environnemental » afin de leur permettre de développer des projets extractivistes plus rapidement en temps de crise. Et on nous rappelle dans cette déclaration que ces stratégies sont similaires à celles qui ont été adoptées dans le passé. Par exemple, en 1998, alors que le pays est affecté par les conséquences de l'ouragan Mitch, et sous prétexte d'attirer des investissements et de relancer l'économie, une série de concessions minières et de plans de gestion pour l'exploitation de la forêt ont été accordés. De la même manière, au cours de la période qui a suivi le coup d'État en 2009, l'élite politique et économique avait renforcé les projets extractifs au travers d'accords miniers et par la réalisation de projets de production d'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, de projets agricoles et de développement de villes modèles. Donc, la stratégie actuelle du gouvernement s'inscrit dans une conjoncture marquée par des confrontations et des revendications du territoire par les communautés rurales, paysannes, indigènes et garifunas du pays. Donc, cette politique gouvernementale révèle de les responsabilités et de l'autoritarisme. En effet, cette politique ne propose aucune procédure de consultation des populations. De plus, elle participe à un renforcement de la corruption extractive. Et tout cela dans un moment historique où le pays est censé avancer sur une voie démocratique et transparente suite au coup d'État, dans la perspective d'un développement durable et dans la promotion et le respect des droits humains. Donc, cette stratégie politique ne fera qu'aggraver les conflits déjà présents et la violation des droits des communautés. Et en terminant, le Centre d'études pour la démocratie qui a publié cette déclaration alerte les organisations territoriales, nationales et internationales des droits humains pour qu'elles surveillent les politiques et mesures mises en place actuellement à propos de l'extractivisme, car elles ne manqueront pas d'accroître le conflit socio-environnemental actuel et d'approfondir la violation des droits humains. Donc, ça, c'est trois pays dont je vais vous parler. Il y a le Chili, où il y a beaucoup de compagnies canadiennes qui pourraient être un autre sujet dans une prochaine émission, parce qu'il se passe beaucoup de choses là aussi en lien avec la pandémie, la crise et l'extractivisme. Puis, il y aurait plein d'autres pays à couvrir aussi en Amérique latine et dans le monde, mais je vais m'arrêter ici pour l'instant. Merci.
On remercie Mathieu pour ses actualités latino-américaines, tout ça aux apatrides anonymes. Avant de poursuivre en musique, une autre brève locale, une intervention policière complètement démesurée, ça s'est passé au Square Cabot dans l'ouest du centre-ville de Montréal. En gros, ce qui s'est passé, une femme autochtone, elle vivait un épisode psychologique grave, elle disait qu'elle voulait se suicider, elle avait une bouteille cassée dans la main, prête à se trancher les veines. Il y avait un travailleur communautaire qui était sur place, il essayait de la calmer, de la rassurer, et à quelques reprises, elle lui a demandé d'appeler une ambulance. Donc, elle était quand même consciente de ce qui se passait et voulait s'en sortir malgré son grand désespoir. Le 911 a été appelé. On a demandé une ambulance, donc c'était pratiquement « réglé » entre guillemets là, comme situation. Mais finalement, c'est la police qui s'est présentée et pas rien qu'un peu, l'arsenal complet. Plusieurs voitures, 17 agents de police, des tasers, l'escouade canine. Ça a terrorisé tout le monde, ça a terrorisé la pauvre dame qui était en crise. Ça a été très difficile de désescalader la situation qui était déjà assez dramatique en partant. Ça finit par se régler, mais ça a été long, pénible et compliqué. Et suite à cette intervention policière complètement à côté de la plaque, la Fédération des femmes autochtones du Québec a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec pour discrimination systémique et profilage racial de la part du service de police de la Ville de Montréal. Dossier qu'on va suivre pour vous. On s'en va en musique avec un album qui figure très bien au palmarès franco de Choc. C'est l'album Glue de Zen Bamboo. Super réception critique partout. C'est vraiment du bonbon. Il y en a qui comparent à Malajube. Mathieu me disait, lui, que ça lui rappelait Xavier Caféine. Bref, on va écouter la pièce-titre Glue, entre parenthèses, Coule sur moi, de Zen Bamboo, jeune groupe de Saint-Lambert, qui se qualifie ironiquement comme le meilleur band de l'histoire de la Rive-Sud. Au retour, ce sera Marie-Ève et ses suggestions d'une confinée.
Le déconfinement est bien entamé depuis la semaine dernière. Les événements publics ne sont évidemment toujours pas permis. Donc, pour une quatrième fois consécutive, notre agenda antiraciste prend la forme de suggestions de contenu culturel disponibles gratuitement en ligne. Et au début du mois d'avril, vous vous souvenez peut-être que je vous avais présenté une sélection de courts et longs métrages de la maison de production et de diffusion montréalaise Multimonde qui mettait à l'honneur les travailleurs et travailleuses migrantes du Canada. Eh bien là, Multimonde vient de rendre disponible sur son site web une deuxième série de documentaires qui mettent cette fois-ci l'accent sur la musique engagée et l'histoire de la communauté chinoise et autres populations de notre pays. Donc, je vous en présente quelques-uns. D'abord, dans le long métrage « Au pays de la muraille enneigée », j'adore ce titre, je trouve ça hyper poétique, la réalisatrice Marie-Lou Mallet nous amène sur les routes du Chili d'aujourd'hui, pays qu'elle a dû quitter en 1973 à la suite du coup d'État de Pinochet. Elle qui vit au Québec depuis maintenant plus de 40 ans retourne donc dans le pays de son enfance pour enquêter sur ce lieu qu'elle ne connaît plus vraiment. Le documentaire mélange entrevues, séquences de voyage et documents d'archives et dresse un portrait à la fois historique et politique et sociologique du Chili, mais tout en gardant un point de vue très personnel qui est celui de la complexité du sentiment d'identité dans un contexte de mondialisation. Ensuite, être chinois au Québec suit le périple à travers la province de deux jeunes Chinois en quête d'identité et d'intégration et qui tentent de répondre à ces questions. Comment la jeunesse sino-québécoise se sent-elle par rapport à elle-même, à sa communauté et à son rôle ici? Et que sait-elle au juste de l'histoire de sa propre communauté? Parlant d'histoire de la communauté chinoise au Canada, dans « La montagne d'or », un Montréalais d'origine chinoise remonte le cours de l'histoire de sa famille et nous révèle un côté obscur de l'histoire du Canada et de son traitement des travailleurs migrants chinois, principalement avec la taxe d'entrée et la loi d'exclusion des Chinois au Canada. Pour mémoire, au tournant du 20e siècle, il y a des milliers de travailleurs chinois qui sont arrivés au Canada pour construire le chemin de fer qui traverse le pays. Et la taxe d'entrée et la loi d'exclusion les empêchent de faire venir leur famille pendant des décennies. C'est seulement dans les années 60 que les derniers vestiges de ces lois-là vont être finalement abrogés au terme là, de longues luttes là, de la part de la communauté chinoise. En musique maintenant, « Chant de la détermination » présente trois auteurs-compositeurs autochtones, Sam Yan, qui était alors au début de sa carrière, ou presque, Sherry Miracle et Sir Harmony, qui nous présentent ces trois compositeurs à travers à la fois leur processus de création, leur source d'inspiration, mais aussi leur engagement dans les mouvements de résistance de leurs communautés respectives. Réalisé en 2009, le documentaire revient sur donc les débuts là, de l'effervescence de la scène musicale autochtone au Canada, qui est aujourd'hui foisonnante, et il nous permet aussi de revisiter là, les réalités et les combats des communautés là, à l'époque, et qui sont malheureusement toujours aussi d'actualité. Finalement, Musique rebelle Américas, qui est un film pas très récent, le 2004, nous conduit au cœur de l'Amérique du Sud, donc Colombie, Argentine, Mexique et Brésil, par les rythmes et les paroles de quatre groupes d'artistes engagés dans les causes qui animent la société sud-américaine, soit Lila Downs, Chico César, Santa Revuelta et Oye Me Choco. Tous ces films-là sont disponibles sur le site de Multimonde et, comme d'habitude, on va mettre les liens sur notre page Facebook, comme pour les autres suggestions d'une confinée qu'on a fait jusqu'à maintenant. En espérant que je pourrai vous proposer bientôt autre chose que des films à regarder dans le confort de votre salon, qui sait, peut-être des expositions d'art visuel. Bon visionnement!
L'émission est pratiquement terminée. Une autre édition préenregistrée des Apatrides anonymes. On devrait être avec vous dans deux semaines, ce qui nous mènerait au 18 juin 2020. Restez à l'affût, donc soit via notre page Facebook ou celle de Choc, bien, ou carrément dans le site choc.ca où il y a plein de super bons podcasts à découvrir. Vous pouvez visiter notre site apatridesanonymes.info ou encore nous écrire à apatridesanonymes@resist.ca. Avant de quitter, est-ce que vous voulez une petite citation raciste pour la route? Ben écoutez, je vous entends presque dire oui. Alors, on y va. La citation raciste, elle est signée Joe Biden. Et oui, c'est pas toujours l'extrême droite néoconservatrice qui méprise son prochain. Joe Biden a dit à un animateur de radio afro-américain, on traduit, Si vous avez du mal à décider si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n'êtes pas noir. Bon, on comprend le fond du message, qu'être racisé et appuyer un raciste, c'est à tout le moins paradoxal. OK, mais commencer à déterminer qui peut relever de telle appartenance ethnique ou culturelle ou faire partie de tel groupe social ou de telle minorité alors qu'on est de loin dans la classe la plus privilégiée, ben disons qu'il faut aborder ces questions-là avec un peu plus de doigté et d'humilité. Alors pour Joe Biden, ben on lui dit « ta gueule, tu ne décideras pas qui est noir ou non ». C'était Simon au micro pour les apatrides anonymes. Marie-Ève et Mathieu nous ont présenté beaucoup de contenu, beaucoup d'actualités internationales. Ça fait du bien de sortir de chez soi. On les remercie très fort. On va se quitter avec la pièce « Two Rights Make One Wrong » du groupe écossais Mogwai, qui est un peu l'archétype du post-rock, selon moi. Pourquoi on fait jouer cette pièce qui date quand même de 2001? C'est que lors de la dernière émission, Marie-Ève nous a lu un texte de Serge Quadrupani. Et pour accompagner la lecture, on avait mis en fond sonore cette très belle pièce de Mogwai et on a oublié, ben en fait j'ai oublié de la nommer. Alors on se disait, ben refaisons la jouer au complet et nommons-la correctement. Alors voilà, c'est « Two Rights Make One Wrong » de Mogwai. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Les apatrides anonymes vous souhaitent le meilleur en cette période étrange et prenez bien soin de vous. Bye bye!
Thank you.